Chapitre 4. Maggie et Lucy. Vers la fin de la semaine, le révérend Ken avait décidé qu'il n'y avait qu'une seule manière d'assurer à Maggie une existence convenable à St. Ogg's. Malgré ses 20 ans d'expérience comme pasteur de paroisse, il était douloureusement affecté de la persistance obstinée des accusations portées contre elle, sans égard pour une évidence contraire. Jusqu'alors, on l'avait adoré, et on en appelait à lui, plus même que cela ne lui était agréable. Mais maintenant, dans ses efforts pour amener les femmes à rendre justice à Maggie Talleva, il se trouva aussi impuissant que s'il eût essayé son influence sur la forme des chapeaux. On ne pouvait contredire le docteur Ken, on l'écoutait en silence. Mais quand il quittait la chambre, les opinions de son auditoire n'étaient point modifiées. Miss Talleva avait indubitablement agi d'une manière blâmable. Même le révérend ne pouvait le nier. Comment donc pensait-il à son égard d'une manière assez légère pour vouloir interpréter tout ce qu'elle avait fait? Même dans la supposition qui demandait la foi la plus robuste, savoir qu'aucune des choses racontées sur Maggie n'était vraie, même alors, du moment qu'on les avait dites, elles avaient laissé planer sur elle des soupçons qui devaient la faire éviter par toute femme soigneuse de sa réputation et par la société. Aller à Maggie et lui dire « Je ne veux croire à aucun mal de vous sans preuve réelle, mes lèvres n'en proféreront point, mes oreilles resteront fermées, car moi aussi je suis un mortel sujet à l'erreur, aux chutes, et pouvant à peine atteindre le but de mes efforts les plus louables, votre sort a été plus pénible que le mien, vos tentations plus grandes. Aidons-nous donc mutuellement à résister et à marcher sans nouvelles fautes. » Faire cela aurait demandé du courage, une profonde pitié, la connaissance de soi-même, une généreuse confiance. Cela aurait demandé un esprit qui ne trouvât aucun plaisir à médire, qui ne crut point s'élever en condamnant autrui, qui ne se contenta point de grands mots, à la place de la persuasion que la vie ne peut avoir un but moral et une religion élevée sans de puissants efforts pour parvenir à être juste, sincère et charitable envers tous nos semblables. Les dames de St. Ogg's n'étaient entraînées par aucune vaste conception de l'intelligence. Mais elles avaient leur abstraction favorite appelée la société, qui mettait leur conscience parfaitement à l'aise en agissant de manière à satisfaire leur propre égoïsme et en pensant et disant le plus de mal possible de Maggie Talleva après lui avoir tourné le dos. Ce fut naturellement une déception pour le docteur Ken que de trouver, après 2 ans d'encens exagérés, ses paroissiennes rebelles et tout à coup opiniâtres dans une manière de juger opposée à la sienne, et de les entendre soutenir cette opinion contre une autorité bien plus élevée qu'elles avaient respectée plus longtemps encore. Cette autorité avait une réponse très explicite pour celle qui aurait voulu apprendre où commencent les devoirs envers le prochain et qui se serait trouvée disposée à leur faire une part plus large. Cette réponse n'était pas à l'avantage de leur société comme à celui du blessé qu'un samaritain trouva sur le bord de la route. Ce n'est pas que St. Ogg's fût dépourvu de femmes douées de quelque tendresse de cœur et de conscience. Probablement qu'il s'y trouvait une aussi grande proportion de bonté humaine que dans aucune autre petite ville de commerce à cette époque. Mais tant que nous ne verrons pas que tout homme bon et courageux, nous devons nous attendre aussi à trouver toute femme bonne, timide. Trop timide même pour se confier à la rectitude de ses meilleures impulsions, quand elle la classerait dans la minorité. Et les hommes à St. Ogg's n'étaient nullement tous courageux à cet égard. Plusieurs même d'entre eux aimaient la médisance, et à un degré qui aurait pu donner à leur conversation un caractère féminin, si elle ne s'était distinguée par des plaisanteries très masculines et par un haussement d'épaules occasionnel à l'égard de la haine mutuelle entre femmes. La conviction, généralement acceptée parmi les hommes, à St. Ogg's, était qu'ils ne devaient pas se mêler de la manière dont les femmes se traitaient entre elles. Ainsi donc, tout effort que put tenter le révérend Ken, dans l'espoir de procurer un accueil bienveillant ou quelque occupation à Maggie, fut pour lui une déception. Madame James Story ne pouvait penser à prendre comme gouvernante de ses enfants, même momentanément, une jeune personne dont on avait dit de telles choses, et sur laquelle les messieurs faisaient des plaisanteries. Et Miss Kirk, qui avait une maladie de la moelle épinière et désirait une lectrice d'âme de compagnie, était persuadée que l'esprit de Maggie était d'un ordre tel que, pour sa part, elle ne voudrait jamais risquer d'entrer en contact avec elle. Pourquoi Miss Tulliver n'acceptait-elle pas l'abri que lui offrait sa tante Glegg? Il ne convenait pas à une jeune personne comme elle de le refuser. Ou plutôt, pourquoi ne quittait-elle pas le voisinage et ne prenait-elle pas une place où elle ne fût pas connue? Ce n'était pas apparemment d'une aussi grande importance qu'elle portât ces dangereuses tendances chez des familles étrangères à distance de St. Ogg's. Il fallait qu'elle fût bien hardie et bien endurcie pour vouloir rester dans une paroisse où elle était mal vue et où l'on chuchotait autant sur son compte. Le docteur Ken, en face de cette opposition, commença, en homme d'un caractère ferme, à déployer une certaine force de volonté bien supérieure à ce que demandait le but à atteindre. Il lui fallait à lui-même, pendant la journée, une gouvernante pour ses plus jeunes enfants, et quoique, au premier moment, il eût hésité à offrir cette position à Maggie, sa résolution de protester de toute la puissance de son caractère personnel et pastoral contre la calomnie qui l'écrasait et la rejetait, acheva de le décider. Maggie accepta avec reconnaissance un emploi qui lui imposait des devoirs pouvant fournir à son entretien. Ses journées seraient remplies maintenant, et la solitude de ses soirées lui serait un repos bienvenu. Elle n'avait plus besoin du sacrifice que lui faisait sa mère en restant avec elle, et elle décida à Madame Tulliver à retourner au moulin. Mais alors on commença à soupçonner que le docteur Ken, quelque exemplaire qu'en eût trouvé sa conduite jusqu'alors, pouvait bien avoir ses lubies, peut-être ses faiblesses. L'esprit masculin de St. Ogg's souriait agréablement et n'était point étonné que Ken prît plaisir à voir journellement une paire de beaux yeux ou qu'il fût disposé à considérer le passé avec tant d'indulgence. L'esprit féminin, moins influent à cette occasion, envisageait la chose à un point de vue plus grave. Si le révérend Ken allait être entraîné à épouser Miss Tulliver, ce n'est pas toujours sûr d'accorder trop de confiance, même au meilleur des hommes. Un apôtre était tombé et avait amèrement pleuré après. Et quoique le reniement de Saint-Pierre ne fût pas un précédent bien rapproché, les regrets du docteur pourraient bien l'être. Maggie ne se rendait à la cure que depuis quelques semaines, et l'effrayante possibilité qu'elle pût, un jour ou l'autre, devenir la femme du recteur faisait déjà si souvent le sujet de conversations confidentielles que les dames commencèrent à discuter comment elles devraient se conduire quand ce mariage aurait lieu. Car le docteur Ken, à ce qu'on savait, s'était assis pendant une demi-heure dans la salle d'études pendant que Miss Tulliver donnait ses leçons. Bien plus, il s'y tenait tous les matins. Il l'avait une fois accompagnée jusque chez elle. Il la reconduisait presque toujours chez elle, ou, s'il ne le faisait pas, il allait la voir dans la soirée. Quelle créature artificieuse! Quelle mère ce serait pour ses enfants! Il y avait de quoi faire tressaillir la pauvre Madame Ken dans son cercueil, que de voir, si peu de semaines après sa mort, ses enfants confiés aux soins de cette jeune personne. Mépriserait-il assez les convenances pour l'épouser avant que l'année fût écoulée? L'esprit masculin était satirique et pensait que non. Les demoiselles Guest trouvèrent un allègement à leur tristesse en voyant la folie du recteur. Au moins leur frère serait sauvé, car leur connaissance de l'opiniâtreté de Stephen était un sujet continuel d'alarme pour elles, dans la crainte qu'il ne revînt épouser Maggie. Elles n'étaient pas du nombre de ceux qui n'ajoutaient pas foi à la lettre de leur frère, mais elles n'avaient aucune confiance dans la persistance de Maggie à renoncer à lui. Elle supposait qu'elle avait redouté une fuite avec lui plus que le mariage, et qu'elle restait à St. Ogg's comptant sur son retour. Elle l'avait toujours trouvé désagréable. Maintenant, elle la croyait artificieuse et fière. Elles avaient de tout aussi bons motifs pour juger ainsi que vous et moi en avons peut-être pour beaucoup d'opinions aussi peu charitables et non moins arrêtées. Précédemment, elles n'avaient pas été très enchantées de l'union projetée avec Lucy. Mais maintenant, leur effroi d'un mariage entre Stephen et Maggie ajoutait son poids à leur pitié naturelle et à leur indignation en faveur de cette charmante jeune fille abandonnée, et leur faisait désirer qu'il revînt à elle. Aussi, dès que Lucy fut en état de sortir, il fut décidé qu'elle irait chercher un soulagement à l'écrasante chaleur de ce mois d'août, sur les côtes de la mer avec Miss Guest. Et il entrait dans le plan de celle-ci que Stephen put être amené à les y rejoindre. Les premières nouvelles du bavardage concernant Maggie et le docteur Ken furent envoyées à Stephen par ses sœurs. Maggie avait de fréquents renseignements par sa mère, sa tante Glegg ou le docteur Ken sur les progrès de Lucy dans le retour à la santé. Et ses pensées se portaient continuellement vers la maison de son oncle Dean. Elle était affamée d'une entrevue avec Lucy, ne fût-ce que pour 5 minutes, afin de lui dire un mot de repentance et d'être assurée par le regard et la bouche de Lucy qu'elle ne croyait point à une trahison volontaire de la part de ceux qu'elle avait aimés avec confiance. Mais elle savait que, même si l'indignation de son oncle ne lui avait pas fermé la porte, il l'aurait fait par la crainte d'une émotion trop vive pour Lucy. Seulement la voir, sans lui parler, eût été un soulagement pour Maggie, car son imagination était hantée par un visage cruel par sa douceur même. Ce visage, qu'elle avait vu tourner vers elle avec de doux regards de gaieté, de confiance et d'amour dès leurs jeunes années, se revêtait maintenant de tristesse et d'abattement par suite d'une première douleur de cœur. Et comme ces jours s'écoulaient, cette pâle image devenait de plus en plus distincte. La main vengeresse du remords la lui présentait toujours plus parlante. Ses 12 yeux, avec leur regard attristé, restaient fixés pour toujours sur Maggie, et la transperçaient d'autant plus qu'elle ne pouvait y voir aucune colère. Mais Lucy n'était pas encore en état d'aller à l'église ou autre part, où Maggie put la voir. Et même elle en perdit l'espérance quand sa tante Glegg lui apprit positivement que Lucy devait partir sous peu de jours pour Scarborough, avec les Miss Guest, à qui l'on avait entendu dire que leur frère les y rejoindrait. Il n'y a que ceux qui ont connu ce qu'est une douloureuse lutte intérieure qui puissent comprendre ce qu'éprouva Maggie quand elle se retrouva seule le soir après avoir appris cette nouvelle. Ceux seulement qui ont su ce que c'est que de redouter leurs propres désirs égoïstes, comme la mère qui veille son enfant, redoute la potion narcotique qui pourrait calmer sa propre douleur. Elle s'était assise au crépuscule et sans lumière vers la fenêtre ouverte donnant sur la rivière. La sensation d'une chaleur étouffante s'ajoutait confusément au fardeau de sa vie. Le bras appuyé sur la tablette, elle regardait vaguement la rivière dont le courant refluait par la marée montante, s'efforçant de retrouver l'aimable visage avec sa douceur sans reproche, qui sembla à cet instant se retirer et disparaître derrière une figure qui s'interposait et faisait une ombre. Entendant la porte s'ouvrir, elle avait pensé que Madame Jakin lui apportait son souper comme d'habitude. Et, avec cette répugnance pour les paroles indifférentes qui accompagnent l'abattement et la tristesse, elle évita de se retourner pour dire qu'elle n'avait besoin de rien. Car la bonne petite dame Jakin ferait sans doute quelques remarques bienveillantes. Mais l'instant d'après, avant d'avoir pu discerner un bruit de pas, elle sentit une main légère se poser sur son épaule, et entendit près d'elle une voix qui disait « Maggie ». Le visage était là, changé, mais d'autant plus doux. Les yeux calmes aussi, avec leur tendresse allant au cœur. « Maggie », dit la douce voix. « Lucy », répondit une autre voix avec un vif accent d'angoisse. Et Lucy jeta ses bras au cou de Maggie et appuya sa joue pâle contre son front brûlant. « Je me suis échappée », dit Lucy, presque en chuchotant, tandis qu'elle s'asseyait près de Maggie et lui prenait la main, pendant que papa et les autres étaient sortis. « Alice est venue avec moi. Je lui ai demandé son aide, mais je ne puis rester que très peu de temps, parce qu'il est déjà bien tard. » Il était plus facile de dire cela en commençant que toute autre chose. Elles restaient à se regarder mutuellement. Il semblait que cette entrevue dût se passer sans autre parole, car les mots étaient difficiles. Chacune d'elles sentait qu'il y aurait quelque chose de douloureux dans ce qui pourrait rappeler une chose irrémédiable. Mais bientôt, comme Maggie regardait Lucy, toute pensée distincte commença à s'effacer devant un flux de tendresse et de repentir, et les paroles s'échappèrent avec un sanglot. « Sois bénie d'être venue, Lucy !» Les sanglots se succédèrent plus abondants après cela. « Maggie, chérie, console-toi, » dit Lucy, en mettant de nouveau sa joue contre celle de sa cousine. « Ne t'afflige pas. et elle resta tranquille dans l'espoir de calmer Maggie par cette aimable caresse. « Je n'avais pas l'intention de te tromper, Lucy, » dit Maggie, aussitôt qu'elle put parler. « Cela m'a toujours rendue malheureuse d'éprouver un sentiment que je désirais que tu ne connusses pas. J'espérais que je pourrais le vaincre entièrement et que tu ne verrais jamais rien qui pût te blesser. » « Je le sais, chère, » dit Lucy. « Je sais que tu n'as jamais eu l'intention de me rendre malheureuse. C'est une affliction qui nous est venue à tous. Tu as eu plus à souffrir que moi, et tu as renoncé à lui quand tu as fait ce qui a dû être bien difficile à faire. » Elles restèrent encore un moment dans le silence, les mains unies et les joues appuyées l'une contre l'autre. « Lucy, » reprit Maggie, « il a aussi résisté. Il voulait être fidèle. Il reviendra à toi. Pardonne-lui, il sera heureux alors. » Ces paroles partaient du plus profond du cœur de Maggie, avec un effort semblable à l'étreinte convulsive d'un homme qui se noie. Lucy trembla et garda le silence. On frappa légèrement à la porte. C'était Alice, la femme de chambre, qui entra et dit « Je n'ose pas rester plus longtemps, Miss Dean. On s'en apercevra, et on sera tellement en colère de vous voir revenir si tard. » Lucy se leva et dit « Très bien, Alice, dans une minute. » « Je pars vendredi, Maggie, » ajouta-t-elle, lorsque Alice eut refermé la porte. « Quand je reviendrai, je serai plus forte, et on me laissera faire ma volonté. Je viendrai alors te voir quand cela me plaira. » « Lucy, » dit Maggie encore avec grand effort, « je prie Dieu continuellement de n'être jamais la cause de quelque autre chagrin pour toi. » Elle pressa la petite main qu'elle tenait dans la sienne, et regarda le visage qui se penchait vers le sien. Lucy n'oublia jamais ce regard. « Maggie, » dit-elle à voix basse et avec la solennité d'une confession, « tu es meilleure que je ne le suis. Je ne puis. » Elle s'arrêta et ne dit rien de plus. Mais elles s'étreignirent dans un dernier embrassement.